I see trees of green.
Please evacuate this building. Please evacuate this building.
Il faut se retirer les doigts du nez. Oui, c'est obligatoire.
Bois un là-bas ou pas?
Eh hey, oh!
Bois en expansion. Un magazine pour discuter, échanger.
Informer, dénoncer.
Sensibiliser, balancer.
Et mémoriser.
C'est qui d'après vous?
Voix en expansion.
Attention, les voix s'étendent,
s'épandent et s'accroissent,
se développent, augmentent,
se diffusent et se propagent sur le web,
sur les ondes et dans l'espace. Attention, voix.
Voix en expansion.
Un magazine autoconstruit par l'association La Malle aux Libertés.
Ouh, ça c'est de l'information. C'est clair, c'est précis. Je vous tire son chapeau, madame.
Bonjour Bernard.
Eh bien, bonjour Annette. Alors, encore dans notre petit théâtre de verdure, on a de la chance hein, quand même. Alors qu'il fait si chaud dehors.
On a de la chance, mais peut-être qu'on n'est pas les seuls à avoir de la chance parce que on a plein de super invités aujourd'hui, donc sur Radio Diwa 107.5, pour une émission encore extraordinaire, en plein air. Si on écoute bien, on entend même le bruit des oiseaux, je pense.
Ouais. Et en plus, je crois qu'on a plein de jeunes qui sont pleins de convictions. On est en plus sûr des choses, c'est qu'ils sont affirmés dans leur métier parce qu'ils sont donc étudiants à la MFR, tu me dis, Annette, de Buis-les-Baronnies. Ok, alors on peut les applaudir, applaudissez-vous, c'est nul là, allez. Voilà. Merci, merci. On peut les applaudir parce qu'ils sont venus de loin et ils sont au frais.
Donc l'émission aujourd'hui, c'est un plateau de saveurs pour tous.
Voilà, un petit plateau de saveurs pour tous. Et parce que ce sont des cuisiniers, serveurs, qui œuvrent déjà puisqu'ils sont en alternance. Et donc, ils ont montré déjà des qualités qui sont assez impressionnantes. Et puis, ici, dans le Vercors, ils ont découvert plein de choses. On ne vous dit pas tout. Mais ils ont découvert des choses que, je suis sûr, dans leur parcours professionnel, ça va les interpeller quelque part. Mais avant tout, si on présentait la MFR, qu'est-ce que c'est? C'est quand même bizarre, ce truc-là. Parce que je crois que ça fait partie de l'éducation populaire, Annette. Il me semble, hein, MFR, Maison Familiale Rurale.
Voilà, maison familiale rurale, mais je pense que je vais laisser la parole. Alors, il y a les MFR dans leur globalité, et après, il y a deux MFR, là, qui c'est une collaboration.
Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Nadine Schwertziger, je suis présidente d'un CFP, Centre de formation et de promotion des maisons familiales rurales, au cœur de Parc du Vercors. Donc, c'est une petite association qui a été créée il y a 3 ans. Et qui est donc intégré au réseau des maisons familiales rurales. Ce réseau, effectivement, qui fait partie de l'éducation populaire, je confirme. Ce mouvement, il a été créé donc dans les années 30, 1937, très précisément, par des agriculteurs qui, à l'époque, souhaitaient que leurs enfants puissent se former et prendre leur relais en restant sur leur territoire. Donc au départ, on était quand même parti sur un mouvement qui tendait à garder les jeunes vraiment très localement sur leur territoire d'origine, de naissance, pour pouvoir continuer les exploitations agricoles familiales. Voilà, et au fil des années, ce mouvement s'est amplifié, s'est diversifié et surtout s'est beaucoup ouvert sur la découverte des autres et la découverte du monde. Et actuellement, le réseau des maisons familiales rurales donc compte environ 400 ou 450 structures en France et plus encore à l'étranger. Donc ça a beaucoup essaimé. Les MFR, elles accueillent des jeunes potentiellement depuis la classe de 4e. jusqu'à des formations bac plus 3, voire dans les tuyaux, je crois qu'il y a des bac plus 5 qui sont en train d'émerger. Voilà.
Okay. Merci Nadine. Et donc le Vercors s'enrichit de MFR, d'après ce que j'ai compris. Et moi, je voulais savoir, c'est une association, c'est ça? Ce sont des associations indépendantes? Comment ça se passe? Est-ce que les parents participent à l'association? Comment ça marche?
Oui. En fait, c'est un réseau associatif, loi 1901. Donc, chaque structure est indépendante, mais sont reliées à travers des fédérations territoriales, départementales, régionales, et on a une union nationale. Donc, c'est un véritable réseau. Et au sein de chaque maison familiale rurale, effectivement, il y a le collège des familles qui intervient à hauteur de 50% des administrateurs. Donc, c'est vraiment de la coéducation, quelque part.
Voilà, présenter juste la MFR de Baronnies et ses spécificités.
Eh bien, la MFR des Baronnies est en fait une MFR où il a maintenant plusieurs métiers disponibles. Alors, le métier d'origine de la MFR, c'est tous les métiers de l'hôtellerie, le CAP cuisine et services, et on peut enchaîner avec un brevet professionnel cuisine ou service. Depuis 3 ou 4 ans maintenant, on a un CAP vente équipier polyvalent du commerce, donc un petit CAP de vente. Et là, on ouvre à partir du mois de septembre un CAP SAP vert, c'est service aux personnes et vente en milieu rural. Donc c'est pour toutes les micro-épicerie et puis les petits travaux pour l'aide à la personne. Et on a également des troisièmes enseignement agricole, c'est-à-dire que c'est des troisièmes qui sont un petit qui seraient en décrochage scolaire et qui pourraient venir chez nous avec en gros une semaine d'école, 15 jours de stage avec des thématiques, 4 thématiques dans l'année. Pour essayer de trouver leur meilleure orientation possible pour le poste troisième.
Alors on dit souvent les MFR, c'est un autre fonctionnement, mais vous êtes quand même éducation nationale.
Alors on dépend de l'éducation nationale, mais on est établissement sous contrat ou une chose comme ça.
Combien combien de jeunes il y a dans cette MFR?
Alors, cette année, nous, on en a 65. Et voilà, donc...
En fait, vous êtes favorisé dans la classe, vous n'êtes pas bien nombreux.
Non, là, ils sont... donc, on a les CAP première année, cuisine, service, où ils sont 10 en tout. Et les BP, cuisine, service, où ils sont 7.
Alors, j'ai remarqué qu'il y avait du professionnalisme dans ces jeunes. Tu me disais, ils sont en alternance, c'est ça? C'est éprouvant quand même à ce stage-là, non?
C'est un autre système d'apprentissage. Donc en fait, oui, ils sont chez leur patron, payés par leur entreprise pour travailler dans l'entreprise, mais également travailler à l'école. Et c'est un rythme de travail qui est vraiment totalement différent, surtout avec l'hôtellerie, totalement différent du rythme d'un collège ou d'une formation initiale.
Alors on parle entre nous, est-ce qu'il y a beaucoup d'échecs?
Alors, des échecs, on en a toujours trop, mais non, ça va, c'est quand même assez... nous, on a une moyenne de 89% de réussite, si je ne me trompe pas.
Et pour trouver des patrons, ce n'est pas facile non plus?
Pour trouver des bons patrons, c'est pas facile. Mais pour trouver des patrons, normalement, ils ont pas trop, ça n'a pas été trop compliqué pour la majeure partie.
Est-ce qu'il faut avoir un patron pour entrer dans une MFR avant de rentrer à la MFR?
Alors, c'est toujours mieux parce que s'ils ont un patron, nous, on est payés, voilà. Mais non, c'est pas une obligation vraiment.
Vous êtes payé, c'est-à-dire c'est le contrat avec l'État?
C'est ça, oui. En fait, on a une dotation à l'élève pour une année.
Pour les familles, c'est quel coût d'être dans une MFR?
Alors, précisément chez nous, c'est en gros un CAP, un jeune en CAP ou en BP, c'est 1300 euros l'année.
Ça ne peut pas être pris en charge ou
Alors non, parce qu'ils ne sont plus, ils sont plus dans le système scolaire, donc ils ne peuvent plus être boursiers.
Ça a toujours été ainsi?
Je pense que oui, mais à une époque, je pense qu'il devait pouvoir avoir droit aux bourses, mais ça a dû changer après.
D'accord. Ouais, parce que 1300, s'il y a 5 enfants, ça commence à faire quand même des sous.
Oui, mais comme chaque jeune a un salaire de à minima 470 euros, ils peuvent aussi s'auto-financer leur propre formation.
Ok.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Ils sont un petit peu salariés, mais par contre, ça veut dire qu'ils sont sous le statut vraiment de travailleurs et ils n'ont plus les vacances scolaires.
C'est ça. Exactement. Ils n'ont plus que leurs 5 semaines de congés payés par an.
Je veux voir ce que pense la foule qu'ils n'aient plus de vacances scolaires. Est-ce que vous êtes heureux de ne plus avoir de vacances scolaires? Non. C'est pas dynamique, hein. Est-ce que vous êtes heureux? Ah bon, ils sont pas dynamiques, ils ont envie de rester dans ce statut-là. Est-ce que vous... Alors, c'est vrai qu'en... Quand en restauration, on travaille beaucoup pendant l'été, donc ce serait un petit peu compliqué peut-être, parce que en fait, vous faites partie de l'équipe. Il y a certains qui m'ont dit, je fais même des heures supplémentaires, je ne sais pas s'ils ont le droit. Mais en attendant, vous faites vraiment partie de l'équipe. Ça veut dire que si vous faites des heures supplémentaires, c'est que le patron compte sur vous. Mais là, par exemple, vous avez au mois de juin, tous vos camarades qui sont au collège, lycée, enfin lycée surtout, ils vont être en vacances. Ça ne vous met pas un peu les... Non, pas du tout. Bon... Nous allons enchaîner donc avec une petite musique qu'ils ont choisie, non pas du tout apparemment. Est-ce que c'est bien? Comment ça s'est passé? Comment tu as trouvé la MFR? Est-ce que c'est le hasard? Comment ça s'est passé en fait? Là, j'ai Barbara et Lucas. Merci Barbara, merci Lucas de témoigner de votre parcours. On commence par Barbara.
Alors moi, du coup, je m'appelle Barbara Bea, j'ai 17 ans. Et moi, mon parcours, il est très spécial. Parce que avant de venir à la MFR de Buis-les-Baronnies, j'ai fait un an de seconde générale avec option cinéma. Et ensuite, j'ai commencé l'hôtellerie, mais ça ne m'a pas beaucoup plu. Et après, je ne savais pas trop quoi faire. Et ensuite, mon frère, il était à la MFR de Buis-les-Baronnies. Et vu que je ne savais pas trop quel parcours prendre, et la restauration, c'est quelque chose qui peut éventuellement me plaire. Et eh ben, on m'a inscrit avec mon frère, donc je suis dans la classe à mon frère, et puis c'est comme ça que j'ai trouvé la MFR.
Ok, et en alternance, tu es dans un restaurant?
Au restaurant, on n'est que deux en cuisine, donc forcément j'ai beaucoup de responsabilités, c'est-à-dire que je fais les entrées, les plats et même les desserts. Depuis peu maintenant, je dois gérer tout ce qui est gestion des desserts. Donc c'est moi, je dois choisir les desserts, je dois les dresser et je dois aussi gérer le stock des desserts. Tout ce qui est en rapport avec les desserts en fait.
tu rentres dans la vie professionnelle dans combien de temps et est-ce que tu penses que tu vas continuer dans cette voie de la restauration?
Alors là, dans un an, je suis censée avoir mon CAP de cuisine et ensuite j'ai sûrement continué en BP. Et après mes 2 ans de BP, j'aimerais bien aller cuisiner un peu partout dans le monde et continuer comme ça.
Est-ce que tu as un rêve au niveau professionnel ?
Non, j'ai pas forcément de rêve concret, mais j'aimerais bien faire le tour du monde et apprendre la cuisine de chaque pays.
Moi, je suis sûr que ça va être excellent. Tu nous tiens au courant dans 3-4 ans et puis on vient dans ton resto manger la cuisine du monde. Merci beaucoup, Barbara. Annette, elle a envie de te dire quelque chose. Il faut dire qu'Annette est un chef un peu particulier.
Bon, je ne suis pas chef. Non, c'était juste une petite anecdote parce qu'il y a déjà quelques années, il y a un jeune qui est venu qui ne savait pas trop quoi faire de sa vie. Et il m'a un peu secondé en cuisine. Et après, il a fait une formation, parce que finalement, il a trouvé que ça l'a passionné. Il a travaillé dans plusieurs grands restaurants. Ensuite, il a voyagé dans le monde, et grâce à la cuisine, parce qu'en fait, la cuisine est une sacrée porte d'entrée partout où on va. Il a continué du coup à se former sur les différentes cuisines du monde et il est aujourd'hui cuisinier du préfet de Grenoble. Donc c'est un beau parcours. Alors à toi, Barbara, on te souhaite plein de réussite.
Lucas, toi tu viens d'où exactement ?
Moi du coup je m'appelle Lucas Vallon, j'ai 17 ans et moi je viens de Bologne. Mais sauf que mon endroit où je travaille se trouve à Sablé et le nom de mon restaurant c'est le Jacques Soul. Et du coup, je vais parler de mon parcours. Donc, il y a maintenant un an que j'ai fait un CAP sur Orange. Et en deuxième année, c'est grâce à mon prof de cuisine que j'ai pu trouver la MFR de Buis. Parce qu'il m'en a pas mal parlé et que je trouvais que c'était un endroit assez calme. Contrairement à la CCI d'Avignon qui est la chambre... du commerce et de l'industrie.
Tu veux dire que tu as changé d'établissement, mais tu étais quand même dans cette branche-là. D'accord. Donc on peut changer d'établissement et t'as gardé une année ou comment t'as pas recommencé à zéro ?
Ben en fait, j'ai fait mes 2 ans à Orange et une fois que j'ai eu mon CAP, ben du coup, je suis parti à la MFR.
Alors si je comprends bien, il y a plusieurs niveaux dans cette classe ?
Oui, il y a 2 classes du coup. Il y a le CAP et le brevet professionnel.
Est-ce que tu sens que tu peux apprendre un petit peu aux autres, ou il y a des choses qu'ils ne savent pas, que tu sais, que tu peux échanger ou pas ?
Alors oui, je peux leur donner quelques conseils, mais pour moi c'est compliqué de quand même donner des conseils aux autres.
Toi, c'est quoi ta spécialité ? Qu'est-ce que tu aimes bien ?
Moi, là où je travaille, je suis plus sur les entrées et les desserts, mais je préfère quand même faire les desserts.
Donc tu es un peu dans la pâtisserie ?
C'est ça.
Est-ce que tu penses te reformer dans la pâtisserie ?
Oui, parce qu'après mon brevet professionnel, je pense faire une mention dessert à l'assiette.
Est-ce que tu as des rêves professionnels ?
Un de mes plus grands rêves que j'aimerais faire, c'est aller travailler en Suisse.
Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a le chocolat, non mais pourquoi ?
Parce que ça permet de montrer, de découvrir autre chose. Et aussi pour le chocolat, parce que j'aime ça.
Et pour la paye aussi, non ?
C'est surtout aussi une grande partie pour ça.
Il y a pas de mal à ça, hein. C'est normal le boulot et puis voilà.
Un Allemand dans un pub anglais, un Kosovar dans un bouchon lyonnais, une Panaméenne dans un Tex-Mex, une Danoise dans un bar du Sussex, une Canadienne à l'auberge espagnole, une Guinéenne dans une crêperie de Paimpol. Tchécoslovaque dans un Indien, un Afghan dans un resto marocain, un Japonais dans un trou bavarois, un Sud-Africain dans une pizzeria, un Sénégalais dans une saladerie, un Chilien dans un café sushi. Un Palestinien dans un resto cachère, un Pakistanais dans un bar à bière, une Congolaise dans une cantine russe, une Américaine dans un resto campus, un Sibérien dans un bar à tapas, un Indien chez un vendeur de glace.
Alors je reviens avec notre belle émission. Annette, on se retrouve toujours avec ces jeunes qui sont super dynamiques, malgré qu'ils ont passé un séjour, ils ont fait pas mal de nuits à la Belle Étoile, c'est pas facile.
Un plateau de saveurs pour tous, voix en expansion sur Radio Diwa 107.5, dans ce studio en plein air à Vassion-Vercors.
Voilà, on va parler d'un séjour qui a été fait en collaboration donc avec la MFR de l'HPL en Vercors, qui est toute nouvelle et toute récente. Et puis avec aussi la MFR donc de Bulle et Baronnie qui nous a amené ces jeunes à l'appel du 18 juin. Non, je plaisante. Donc je suis avec Mathéo. Mathéo, toi, l'objectif, on te l'avait présenté comment ce séjour? On t'avait dit quoi avant de partir?
Du coup, qu'on avait visité du coup des donc on avait visité un endroit donc la base nature et qu'on allait aussi visiter donc le mémorial. Donc on a fait donc quelques visites par rapport à l'histoire et du coup après du coup on est revenu vers la base nature qui nous ont appris aussi par rapport à les plantes, à tout ce qui est pour manger.
Ok, ça correspond un petit peu à ce que tu t'attendais parce qu'on t'a dit que tu dormais dans des trucs un peu bizarres.
Bah vu que c'est une première fois, on peut pas vraiment savoir ce qui va se passer, ce qu'on va avoir, donc on va dormir puisqu'on nous a présenté qu'on allait dormir du coup dans des tipis. Mais on n'a jamais dormi dans notre tipi, donc on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Mais c'est vrai que la plupart étaient contents à ce sujet, de savoir qu'on allait dormir dans des tipis.
Et toi, personnellement, comment tu as vécu le truc de dormir à moitié en plein air là?
Bah moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa et c'est plus ça change de ce qu'on fait au quotidien, puisqu'on ne dort pas tous les jours dans des tipis non plus. Et puis voilà.
Est-ce que tu as une anecdote? Par exemple, par rapport à la vie différente, pour que nos auditeurs, par exemple, tu dormais et puis y a un serpent qui est venu qui est anglais, non, c'est pas vrai, mais est-ce que tu as une anecdote?
Bah, pas vraiment d'anecdote, puisque moi, du coup, j'ai essayé, avec deux, trois amis, on a dormi en plein air. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, on n'est pas dans nos chambres, on n'est pas avec des murs à côté, donc on est obligé de s'attendre à avoir des bestioles ou des trucs comme ça qui sont à côté de nous pendant la nuit, mais c'est comme ça, c'est le plein air, c'est normal.
Et le plafond, il était joli?
Il n'y a pas de plafond.
Non, mais je veux dire, la voie lactée, tout ça.
Ah, bah...
Sois poétique.
Bah oui, c'est sympa de pouvoir regarder les étoiles quand on dort ou des choses comme ça. C'est vrai que ça change de d'habitude.
Ouais. Après, deuxième temps, tu as dit, vous avez fait quoi? Pour le résumer vite fait, la connaissance de plantes, c'est ça?
Donc avec Bernard, on a fait le tour un peu de la base nature. Donc on a pu découvrir plein de nouveaux types de plantes comestibles ou pas. On a pu apprendre à savoir ce qui est comestible. On a pu donc en goûter et du coup c'est vrai que c'était une expérience et puis c'était sympa.
Bon ben merci. Hein.
C'est que je suis dans Campani, je pense au refrain pâli, je fume la que vanille, bordel quand on arrive. Ce soir je pourrais bien mettre mes nappes, c'est que j'ai l'instinct animal, je vois flou, visière intégrale, bidou sur la capitale.
Je suis sur Twitter, je suis toujours entêté, je vois son vice dans ses yeux, elle veut m'endetter. Class business, Mexico, je pourrais serrer Bernice, je connais le vice, mais elle veut prendre mon cœur avec son vernis.
Bonjour, déjà est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes?
Ouais, donc Guillaume Refet, je suis arrivé ici dans le Vercors il y a une année à peu près, avant j'étais dans les Vosges. Et au départ je suis guide en traîneau à chiens, donc ça n'a rien à voir avec les légumes bio, mais j'ai aussi monté des magasins bio Et je me suis aperçu que l'alimentation saine, c'est important. On mange tous, donc on est tous concernés. Et donc, en arrivant ici pour rencontrer du monde, on a monté un groupage de produits bio. Et du coup, on a rencontré tous les voisins. Donc, ça fait du lien social. C'est une partie un petit peu pour se fédérer, l'alimentation, parce que quand on mange sainement, on prend soin de soi. Donc, derrière, on imagine aussi la partie soin. On imagine la partie production, donc que ce soit vertueux. Donc, local ou moins local, hein. Il y a des produits comme les bananes, c'est pas du tout local. L'huile d'olive, ça l'est un petit peu. Mais souvent, ce serait qu'on a des pays qui travaillent bien aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de se grouper entre voisins, soit pour apporter des choses d'un peu plus loin, soit de faire le lien avec les producteurs. Et la micro-épicerie, ça évite, dans des endroits enclavés comme dans le Vercors, de faire une heure de route, par exemple. Donc, outre le lien social, ça permet tout ça. Et sinon, j'ai tout un passé, justement, avec les chiens de traîneau. Et ici, dans le Vercors, on est venu pour s'inspirer des chiens de traîneau et du loup pour refaire société, un peu comme les Amérindiens le faisaient. Et la micro-épicerie, c'est juste un outil parmi les autres.
Donc, pourquoi vous avez décidé d'avoir deux activités ?
Ouais, j'en ai 8, en fait. Ouais, on a aussi une maison d'édition. Le principe avec la micro-épicerie, c'est donc de lever des communautés de résilience par l'action. La maison d'édition, c'est sur l'écologie, la connaissance de soi et la transformation sociétale. Donc, ça, c'est aussi le principe de penser ensemble. Donc, pour lever ces communautés de résilience, et la nourriture, c'est le premier levier d'action. Et le chien de traîneau, bah, c'est mon métier d'origine et il inspire ce sens du groupe. Parce qu'on arrive, pour moi, un petit peu un moment phare pour l'humanité, et surtout pour vous qui êtes peut-être même plus jeunes. Il y a une histoire de raréfaction des ressources, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, et aussi un petit peu de dérèglement climatique, donc il va bien falloir refaire société ensemble pour trouver des solutions pour nous adapter autrement que dans la guerre et plutôt dans la bonne humeur. Donc toutes ces activités-là, en fait, elles contribuent à faire du lien social pour faire advenir une société coopérative.
Et donc, pour vous, qu'est-ce qui différencie les légumes bio et les légumes non bio ?
Ben, déjà, même dans les légumes bio, il y a différentes manières de les faire, parce que ce soit conventionnel ou bio classique, je dirais, on broie le sol, donc ça fait de la poudre. À un moment, ça ne devient plus qu'un support. Derrière, il est plus vivant, et du coup, les déserts avancent. Donc, on irait même plus, si c'est possible, avec l'agriculture régénératrice, donc qui reconstruisent les sols. Et après, ben, le conventionnel, il y a cette histoire chimique, donc, qui est même un petit peu anti-vie, parce que tous les engrais, tout ça, c'est issu aussi de trop de stocks d'armes chimiques pendant la Deuxième Guerre mondiale notamment, ou voire même la Première, et qui ont été après transformés par l'industrie pétrochimique et qui nous ont un petit peu imposé une agriculture conventionnelle, alors qu'on n'en avait pas besoin. Ça casse tout.
Comment faites-vous avec les insectes ?
Avec les insectes, alors nous, on n'est pas producteurs, donc on a moins de soucis. Mais c'est vrai qu'on les met surtout au frais, les légumes. Donc on est juste, c'est un groupement de maraîchers qui nous livre. Et puis là, en saison, dans le Vercors, il y a le maraîcher à 2 km. Peut-être vous allez même l'interviewer, je ne sais pas. Le but, c'est de fonctionner avec lui pour tout ce qu'il produit.
Saigner à fond et s'entourer de quatre murs. Fini les crocs, fini les coups. Car le pire des mots, c'est sous du loup. Le temps me fait défaut, l'argent de faux. Bon, j'emprunte pour 4 générations.
Bonjour, monsieur cochon. Mm-hmm. On le fait pour vous aider. Mm-hmm. Mm-hmm. Il vous faut de la monnaie, je peux vous en procurer. 10% d'intérêt, je sais c'est élevé. Mais qui d'autre que Wallbang prêterait à un cochonnet?
Hey! Le v'là endetté, j'ai trouvé l'apparat, je le tiens par le porte-monnaie.
L'heure de ma vengeance va bientôt sonner.
Chalet, route sur le dos, cabane, van, mobilo. La retard c'est notre droit, léger c'est notre choix. Chez nous, le loup fait pas sa loi. Autonomie, hey, autonomie. qu'on construit. Hey, écologie, hey, respect, choix de vie.
Fini la porcherie, un bon vie à petit
prix. Et si demain on se casse, on laissera pas la tasse.
Parce qu'on passe par là, même au sens, est-ce que j'ai le choix? Je vais passer voir les frérots et leur en toucher deux mots.
Et la misère, et le loup galère. Bye, la vie d'un team dieu, la forme qui me plaît. À toi quel qu'il soit, bienvenue chez toi mon frère.
Je suis sceptique, c'est pas de la vie.
C'est la terre du bois de la paille, 100% local.
Bref, rien de bon en terre d'isolation.
Feu de chamboulaine, ma maison est saine.
Chaque hiver, retour à la glacière.
N'importe quoi, j'ai un bon poil à bras.
Ma truie et moi, mais où est-ce qu'on fait caca?
Quoi? Tu connais pas ton laisse sèche, toi?
Chalet, vous êtes son nouveau. Caravane, cabane, van, mobilo. La vita, c'est notre droit. Léger, c'est notre joie. Chez nous, le loup fait pas sa loi. Autonomie, hey, autoconstruit, hey, écologie.
Ah, enfoiré de cochon, ils ont trouvé la solution. Vite, une autre astuce. Messieurs les cochons, que faites-vous là? Vous avez un permis? Dites-moi de quel droit vous avez construit ça? La loi ne dit rien sur votre cas, alors dégagez-moi de là.
Le loup, encore une fois toi, laisse béton le tomber. Là, ton système grégaire nous rend bien amer. Laisse donc faire les rois du camping vert. On est des milliers, c'est pas prêt de s'arrêter. Moi et mes porcelets, on veut pas être assisté. Un brin de liberté, c'est tout ce qu'on a demandé. Allez, on n'est pas des vaches, allez.
On est les cochons, on est les cochons. On est les cochons, on a construit nos maisons.
Derrière le costume, méfie-toi, y'a un loup
avec nos amis. Salut, du coup, moi c'est Arnaud. Dans la vie, je suis maraîcher et apiculteur. Et j'habite à Vassieux, en Vercors.
D'accord. Donc maraîcher, vous faites essentiellement des fruits et légumes bio, c'est ça?
Du légume. On n'a pas de label, mais on fait mieux que du bio. Le bio, c'est de la merde.
Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup. Ah oui, et pourquoi c'est de la merde?
Et bah parce que c'est un label qui a été un peu perverti, j'imagine, ou je sais pas ce qu'était la base, mais dans l'idée, aujourd'hui on retrouve du bio sur grande surface, traité avec notamment de la bouillie bordelaise qui est du cuivre, et à force d'en mettre, en fait on pollue nos sols aux métaux lourds par exemple, du cuivre, et du coup ça pose la question du bio.
D'accord, bah merci beaucoup de ta réponse. Vous fournissez des restaurateurs ou des choses comme ça, des commerces?
Ouais, restaurateurs, épiceries, des particuliers aussi. Et voilà, essentiellement.
D'accord.
Est-ce que par rapport à des légumes, par exemple non bio, genre industriels, le prix il est vraiment augmenté parce que c'est plus que du bio ou pas?
Alors vraiment non, disons que oui, on va être plus cher que du conventionnel qui va produire de la carotte en grande quantité et qui surtout va être mécanisé. Après les tarifs restent, moi je pense qu'aujourd'hui, bon, j'en sais rien en fait, j'ai aucune idée, je vais pas acheter de légumes. Non, mais on n'est pas très cher. Je sais que par rapport au prix de l'épicerie, là où on vend, aujourd'hui, on se tient par rapport à du conventionnel, sachant que c'est une petite épicerie. On n'est pas sur des grandes surfaces ou autres, où là, oui, les prix sont vraiment tirés vers le bas, mais où les conséquences de ce prix aussi sont cher payées pour les agriculteurs. Et de fait, le fait de fonctionner en direct permet aussi de supprimer des marges qui sont prises par toute l'agro-industrie, le transport, etc. Parce que si tu achètes des carottes nantaises, allez, mettons à Nantes, et ben elles sont produites à Nantes, donc il faut payer l'agriculteur. Ensuite, il faut les transporter par camion, et ensuite, il faut les mettre en rayon, etc., etc. Et tous ces gens qui vont bosser, tout ce transport, etc., ben, ça a un coût. Et ce coût, il est répercuté sur le consommateur. J'entendais tout à l'heure, là, j'écoutais un gars qui disait que quand on achète à manger, il y a, alors si je me rappelle bien du chiffre, hein, mais sur ce que vous achetez, il y a 7% qui revient à l'agriculteur. C'est-à-dire que le salaire, c'est même pas le salaire, hein, c'est ce qui revient à l'agriculteur, et ces 7%, ça lui permet de faire tourner son entreprise, les tracteurs, etc. et son éventuel salaire. Voilà. Alors il y a des agriculteurs qui vivent plus ou moins bien, mais plutôt moins bien que bien.
Est-ce que vous êtes rentable ou pas par rapport à tout ce que vous produisiez avec les matières premières? Enfin, est-ce que vous êtes rentable au long terme?
Eh ben, nous, c'est tout récent, notre activité. Du coup, pour l'instant, on est... la rentabilité, je ne saurais pas te dire parce qu'elle est mêlée à d'autres activités. C'est en plein développement, mais en tout cas, la marge de progression est conséquente. En tout cas, je dirais que sur la petite production qu'on a pour l'instant, oui, la rentabilité, elle est très correcte du fait d'avoir supprimé... tous les intermédiaires. Après, reste quand même acheter du matériel, essayer de se payer à peu près ses heures. Mais revenez dans 5 ans, je vous dirai ça.
Moi, je sais pas c'est quoi la différence entre une courgette bio et une courgette pas bio, du coup.
Eh ben, pas bio, c'est-à-dire phytosanitaire. Alors, il y a deux points, à mon avis, importants. Il y a d'une, les produits phytosanitaires, donc pesticides, pour tuer les autres plantes, insecticides, pour tuer les insectes, fongicides, pour tuer les champignons. Bon, tout ce qui finit en cide, globalement, ça tue pas que les champignons et les insectes. Hein. A priori, je pense que c'est difficile de dire que ça n'a pas d'impact sur notre propre santé. Après, dans le bio... comme je disais tout à l'heure, il y a à boire et à manger. Aujourd'hui, on retrouve des traces de cuivre très, très élevées dans certains légumes, et notamment, j'avais entendu, dans des petits pots pour bébés, donc des métaux lourds, et donc les problématiques que ça pose avec. Alors l'idée, ou l'essence en tout cas, on va dire peut-être du bio, c'est biologique, donc c'est une agriculture avec la biologie, avec le vivant. Et donc c'est d'utiliser des méthodes qui respectent l'environnement, et globalement, dans la nature, les plantes, elles poussent toutes seules. On n'a pas besoin de les siroter à divers produits, donc c'est d'essayer de trouver comment ça fonctionne, d'accepter aussi certains aléas, des salades qui se font bouffer par des limaces, tu replantes des salades, etc. Après, il ne faut pas être dogmatique non plus. Il faut que les gens ils puissent vivre de cette activité, parce que, in fine, ce qu'il faut se dire, c'est pas d'alimentation, pas de vie, et pas de vie, pas d'homme, quoi. Donc après, je dirais que le principe de base, c'est de respecter la biologie, et du coup, plutôt de fonctionner avec la nature que contre. Et puis après, différentes méthodes, mais là, on va rentrer dans du plus technique. Avoir des sols vivants, avoir des auxiliaires. Les auxiliaires, c'est par exemple, je vous donne un exemple basique, on va dire, la coccinelle, elle mange les pucerons. Le puceron, lui, il va être embêtant, par exemple, sur des fèves, sur différents légumes. Et donc, il y a deux options. Soit on balance un insecticide pour tuer les pucerons, et globalement, on tue les coccinelles avec, et tout le reste. Ou alors, on essaye de favoriser la coccinelle, de planter des plantes qui vont choper du puceron avant les plantes que tu auras planter. Et du coup, sur ces pucerons, les coccinelles vont se développer. Et quand tu vas planter tes trucs et que ça va choper du puceron, il y aura des coccinelles. Et du coup, tu réduis les soucis comme ça. Tu peux aussi, plutôt que d'avoir un hectare de carottes, avoir... plusieurs variétés de légumes, ce qui fait que du coup les parasites spécifiques à la carotte, ils seront dilués parmi d'autres. Par exemple, ils n'iront pas sur le chou, ils n'iront pas sur les haricots, et du coup ça permet de diluer un peu le truc, d'avoir d'autres plantes qui vont sentir fort pour les induire en erreur, quoi. Il y a plein de méthodes qu'utilise la nature, hein. En fait, c'est ce qu'on appelle du biomimétisme. C'est se servir des centaines de milliers d'années d'évolution de la nature pour au service des cultures. Et je pense, pour aller même un peu plus loin, que l'homme, il est globalement destructeur, mais qu'il peut aussi être catalyseur de son environnement. C'est-à-dire que notre présence peut permettre une plus grosse biodiversité que si on laissait... la nature faire pour arriver au climax. Le climax chez nous, c'est une forêt de hêtres géante. Et finalement, une forêt de hêtres, c'est assez pauvre en biodiversité. Alors que si on crée des effets de bord, des clairières, des mares, etc., ben, on va potentialiser la biodiversité. Et du coup, eh ben, les prédateurs, des ravageurs, etc. Mais pour tout ça, il faut être dans un équilibre, sachant que cet équilibre, il est variable. Et que bah, des années, on va avoir beaucoup de rongeurs. S'il y a beaucoup de rongeurs, bah, ça va faire naître du renard. S'il y a du renard, ça va bouffer les rongeurs. Et l'équilibre, il va se trouver comme ça. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une année où il y aura potentiellement beaucoup de rongeurs. Et du coup, aussi beaucoup de dégâts sur tes jardins. Quoi.
D'accord. Bah, merci beaucoup.
Voici que l'eau de mon chaudron frémit, entre en ébullition. Quelques racines de pissenlit à la décoction. Une larme d'hydrolat, valériane ou cassis. Pétale de calendula pour soigner mes soucis. J'ajoute une pincée d'origan, de la nigelle dans du miel pour attirer les corrigans. Passiflore ou bardane en élixir floraux. Je purifie mon antre à la soja ou au palo santo. Fruits, graines, feuilles, écorces et racines. Chaque plante serait donc un recueil de médecine. Et celle qui nous ferait le plus de bien ne viendrait pas de si loin. Elle pousserait même dans nos jardins. En cueillant la mélisse pour soulager mon ventre, je rappelle au labo que mon corps n'est pas à vendre. Pour me tenir loin de tout ce que les lobbies favorisent, je m'en vais me soigner chez mon herboriste. Si dans la comté on m'appelle le vieux druide, c'est pour les secrets de mes potions apaisantes. Dans le vieux grimoire qui me sert encore de guide, dorment les histoires racontées par les plantes. Mon jardin est vert, garanti sans pesticides, gentiment offert par la nature environnante. Pleine de ces fleurs qui sont aussi nos racines, une médecine naturelle et abondante.
Je me soigne avec les plantes, elles soulagent mes problèmes. Le système
pharmacopée, sirop à boire au goulot. Je me soulage au tussilage et à la sève de bouleau. Spiruline, chlorelle, prêle ou romarin. De la cannelle ou du thym, offert par les lutins. Une feuille de plantain, ça nous plante un décor. Macérat de consoude pour qu'on soude nos corps. Tenture de millepertuis quand je sais plus ce qui m'arrive. Je m'en vais cueillir du lierre pour en faire ma lessive. Et la menthe de mon amande suffit à me nourrir. Je cultive la marrante pour garder le sourire. Son caractère piquant et ses pouvoirs enfouis. Existe-t-il une femme aussi belle que l'ortie, que je puisse l'inviter à des câlins nature, que l'on s'en aille ensemble compter les cailloux, récolter l'arnica parfait pour les coups durs et bien sûr du gingembre pour les coups de mou. Si dans la comté on m'appelle le vieux druide, c'est pour les secrets de mes potions apaisantes. Dans le vieux grimoire qui me sert encore de guide, dorment les histoires racontées par les plantes. Mon jardin est vert, garanti sans pesticides, gentiment offert par la nature environnante. Pleine de ces fleurs qui sont aussi nos racines, une médecine naturelle et abondante.
Je me soigne avec les plantes, elles soulagent mes problèmes. Botanique le système.
Amour spagyrique, baiser au curcuma. Au nom d'un monde magique que l'on porte en soi. Jusque dans le désastre, des plantations de soja. Tourisme ayurvédique, chaman et ayahuasca. Mais comment cueillir les plantes quand on les trouve belles? Savoir le sacrifice d'en extraire leur essence. Au regard de la lune, sèche les immortels et pousse la calune jusqu'à sa florescence. Écrire sur une ardoise chacune de leurs vertus. Quant à celle de l'armoise qui ne les a pas lues. Je me soigne aux épices, j'aime les abeilles, mais n'allez pas croire que je suis propolis. Je ne peux chanter longtemps sans mon sirop de chantre. J'ai promis à maman que je parlerai pas du chanvre. Que chacune de ces dames nous récite leurs poèmes. Botanique le système. Si dans la comté on m'appelle le vieux druide, c'est pour les secrets de mes potions apaisantes. Dans le vieux grimoire qui me sert encore de guide, dorment les histoires racontées par les plantes. Mon jardin est vert, garanti sans pesticides, gentiment offert par la nature environnante. Pleine de ces fleurs qui sont aussi nos racines, une médecine naturelle et abondante.
Je me soigne avec les plantes, elles soulagent mes problèmes. Botanique le système.
Si les plantes nous l'accordent, c'est qu'elles ont leur raison. Moi je reçois ce qu'elles offrent comme un poème. Elles dessinent le décor au rythme des saisons.
Je choisis la vie de la bohème.
Elles accompagnent les corps vers la guérison. Elles révèlent les trésors de leur écosystème. Elles qui font pousser les cœurs jusqu'à la floraison.
Je leur dis merci et je t'aime.
Je me soigne, je me soigne. Je me soigne, je me soigne. Je me soigne, je me soigne. Je me soigne, je me soigne.
Avec les plantes.
Je me soigne, je me soigne. Je me soigne, je me soigne.
Avec les plantes.
Je me soigne, je me soigne.
J'aime ça. Avec les plantes.
Est-ce que les pesticides, tu trouves que ça... Donc du coup, les produits non bio, c'est ça que je veux dire. Ça change la saveur, la couleur, ou est-ce que ça change quelque chose sur le légume?
Alors, les pesticides en eux-mêmes, j'en ai aucune idée. Parce que... j'en sais rien. Non, je pense même que ça n'a pas d'impact. Après, ce qui va avoir un impact sur la saveur, les couleurs, en fait, c'est le nombre de variétés, le type de variété. Il y a, je sais pas, sur les carottes, il doit y avoir des dizaines, des centaines de types de carottes différentes qui vont être plus ou moins goûtues. Il y a notamment dans l'agro-industrie pas mal d'hybrides qui sont mis en place. Et ces hybrides, en fait, ils sont faits pour pousser vite, donner des grosses quantités, avoir ce qu'on appelle des calibres, c'est-à-dire que toutes les carottes aient la même tête, qu'elles aient toutes la même couleur, toute la même taille. Et du coup, généralement, alors ça c'est à vérifier, mais d'après ce que j'ai entendu, le fait d'hybrider, enfin d'avoir, notamment par exemple sur les tomates dans les restos, généralement elles sont dégueu parce que c'est des hybrides qui en plus de ça sont poussés... avec différents produits, et je pense que la saveur des légumes, elle est liée au terroir et à la variété. Les variétés qu'on va dire anciennes, paysannes, elles seront, à mon sens, bien plus goûtues. En tout cas, c'est un peu le retour que j'en ai, et notamment, je le pense spécifiquement, nous on cultive la rouge sans, en carottes, qui clairement est plus sucrée, plus savoureuse qu'une nantaise de supermarché, quoi. Et puis aussi la quantité d'eau que t'apportes. Plus t'apportes d'eau, plus tu dilues la saveur. Et donc c'est de trouver cet entre-deux. Après, il faut pas me faire dire ce que je dis pas. Et pas d'eau, pas de légumes.
Oui.
Alors il y a plein de choses à mettre en œuvre pour pallier à ça. Alors nous, on fonctionne essentiellement avec de l'eau de pluie. Donc la récupération, après comme je disais, voilà, pas d'eau, pas de légumes, donc il faut quand même des volumes. Nous on a pas mal, une pluviométrie qui est assez importante, on va dire, hors période de sécheresse en été. Donc on va stocker l'eau pour pouvoir la redistribuer en été. On va essayer d'avoir des apports les plus précis possibles, notamment avec du goutte à goutte. Après, ce qui fait pas tout. Et après, pour moi, à mon sens, le point cardinal pour ces problèmes de sécheresse, ça va être la qualité des sols. On essaye de favoriser la matière organique. Un point de matière organique dans ton sol, c'est autant de réserves d'eau utiles dans les sols. En plus, en fait, ça va fonctionner un peu comme une éponge. C'est-à-dire que plus tu as de matière organique et plus ton sol il va retenir l'eau. Il y a un autre facteur, c'est le travail du sol. Le fait de passer la charrue tous les ans, en fait, on va déstructurer le sol. C'est-à-dire que tu vas créer de la porosité artificiellement en passant la charrue. Tu détruis les mottes de terre, etc. Et il va créer de la porosité. Dans cette porosité, les racines vont pouvoir se glisser, etc. Mais c'est comme quand tu fais du café, tu moues ton café, ton grain de café. Et derrière, quand il passe de l'eau dedans, ça devient du béton. Et nous, au contraire, ce qu'on essaye de faire, enfin ce qu'on fait en tout cas, notre technique culturelle de base, c'est le maraîchage sur sol vivant. C'est-à-dire qu'on va, les deux concepts de base, c'est un sol jamais travaillé et toujours couvert. Et du coup, on va s'appuyer principalement sur les vers de terre. Ces vers de terre, ils vont creuser des galeries. Alors, il y a des vers de terre qui vont travailler le sol en surface, on va dire, et tu as des vers de terre qui vont travailler de façon verticale. Et en fait, toutes ces galeries, c'est autant de porosité dans la terre qui permet à l'eau de descendre, de se stocker, aux racines de descendre. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est dans la forêt, par exemple, tu as des arbres. Les arbres, c'est des plantes géantes. Ça pousse tout seul et on ne fait rien. On ne met ni d'engrais, ni de fongicides, ni rien. Et le sol, il est toujours couvert et jamais travaillé. Et en gros, l'arbre, à l'automne, il va perdre des feuilles. Il y a des branches mortes aussi qui vont tomber. Et tout ça, c'est du carbone. Ce carbone, il va arriver au sol, il va se faire dégrader par les champignons. Et les champignons, en gros, ils vont dégrader cette matière et il va y avoir des résidus. Ces résidus vont être mangés par les vers de terre. Et les vers de terre, en gros, ils mangent du carbone et ils chient de l'azote. Et là, tu commences à avoir un cycle parce que l'azote, c'est ce qui va permettre à la plante de se nourrir. Alors, c'est très simplifié parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a toute une faune. Hein. D'ailleurs, la pédofaune, donc la faune du sol, c'est la faune la plus diverse et la plus importante finalement sur la planète. Et c'est pourtant quelque chose qu'on ne connaît pas, on marche dessus, on n'a aucune idée de ce qui se passe en dessous. Donc porosité, la vie, etc. Et donc nous, on va apporter du carbone en surface, couvrir le sol pour éviter l'évaporation. Les UV sur le sol, elles vont détruire aussi toute cette vie, etc. L'évaporation va être d'autant plus forte. Et donc on le couvre et on le travaille pas de façon à ce que les vers de terre et toute cette vie du sol en fait aient un habitat le plus accueillant possible. T'imagines, chaque année on trace ta maison et on détruit tes réserves de bouffe, ça va être compliqué pour survivre dans le temps quoi. Donc un sol travaillé, c'est un sol qui va s'appauvrir. Et donc là je reviens au bio, chose importante, en fait il y a plusieurs façons de désherber. Il y a donc passer la charrue, le travail du sol, hein, c'est pour ça qu'on travaille le sol, c'est pour désherber, pour pouvoir implanter ses cultures. Ensuite, il y a le glyphosate, donc les fongicides, pesticides phytosanitaires. Donc ça tu détruis un couvert et tu vas pouvoir semer dedans. Et après, il y a l'autre technique, on va dire, mais qui du coup n'est pas faisable à grande échelle. On ne va pas pouvoir faire des hectares et des hectares comme ça. C'est d'apporter de la matière pour la couvrir, ou vous l'avez vu en arrivant, en utilisant des bâches. Permettre de tuer les plantes qui sont en surface pour pouvoir implanter nos cultures. Ces bâches, elles ont plusieurs intérêts. Elles nous permettent de réchauffer le sol au printemps. Elles nous permettent d'économiser de l'eau parce qu'il y a moins d'évaporation. Et donc, elle nous permet aussi d'économiser du temps de travail sur le désherbage et de pouvoir implanter des cultures en partant d'une prairie. Donc ça, après, voilà, c'est des méthodes qui peuvent se faire sur des petites surfaces et ça va être compliqué d'utiliser ce genre de méthode sur des grandes surfaces. Après, voilà, il y a d'autres gens qui ont d'autres méthodes, mais que je ne maîtrise pas, donc j'en parlerai pas.
D'accord. Et j'avais une autre question. Est-ce que du coup vous utilisez pas de terreau ni quoi que ce soit pour l'implantation ?
Du terreau aussi pour les semis. On fait des semis en godet, donc soit dans des pots, soit dans des plaques alvéolaires ou dans des mottes. Et donc ça, c'est pour permettre de faire partir nos plants, plus rapidement. Il permet de leur faire grandir un petit peu sous serre. Et une fois qu'ils sont suffisamment costauds, tac, on les met dehors. On va gagner un petit peu de temps et puis surtout, ça évite... Le semis, c'est compliqué parce que quand tu sèmes, donc il n'y a pas de bâche possible. Donc c'est forcément, quand tu as des bâches, c'est issu de pots ou de mottes, quoi. Et donc l'idée, c'est vraiment de... Si tu fais ton semis, tu vas être en concurrence avec les autres plantes, etc. Et tu as des plantes qui vont, par exemple, le chou, ça va pousser doucement. Et donc si tu mets une graine de chou là comme ça dans ton truc, tu vas être bouffé par les mauvaises herbes, ça va te demander beaucoup de travail et plus d'irrigation, parce que la graine, quand elle germe, elle est très fragile. Il faut qu'elle soit tout le temps humide, parce que si elle sèche, elle meurt. Donc un petit peu de terreau. Ouais.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, monsieur.
Monsieur, quel était l'objectif de ce séjour et d'où vous venez ?
Donc, nous venons de la MFR de Buis-et-Baronnies dans le sud de la Drôme. Pourquoi on est venu faire ce séjour, c'est pour apprendre à nos jeunes cuisiniers et serveurs apprentis à utiliser des fleurs comestibles et leur donner une alternative à la nourriture classique.
D'accord. Bah super, bah on va s'enchaîner, là, on va voir si c'est bien. En salle, donc nous avons les serveurs. Vous donnez votre prénom. Alors toi, tu t'occupes de la boisson.
Oui, moi je m'occupe de la boisson et mon nom est Adrien.
D'accord. Et qu'est-ce que tu nous as fait, Adrien, là ?
Du sirop de sureau.
D'accord. Ok, alors ça c'est une infusion froide de sureau, ok. Tu peux faire un petit service pour les gens pour qu'ils goûtent, on va voir ce qu'ils en pensent.
Oui.
Allez. Ah, il faut un goûteur. Voilà. Il y a un goûteur, oui, tu peux parler. Hein. Alors, tu goûtes, tu vas me dire un peu ce que t'en penses. Qu'est-ce que ça tient en bouche ou pas ?
C'est pas mal. Ça a un bon goût de fleur de sureau.
D'accord. Alors là, il est en train de boire avec passion. Dis-moi tout.
De sureau et aussi un goût de sucre.
Un petit goût de sucre, ok. On va enchaîner sur la dégustation maintenant. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire la bannique, qu'est-ce que c'est?
Un pain d'épinard cuit comment?
Un pain d'épinard cuit comment?
Au feu, de bois.
D'accord, comment t'as fait?
Bah, on a fait chauffer un feu, on a fait monter un feu et ensuite on les a fait cuire enroulés sur des bâtons que nous avons taillés juste avant.
Ok. Très bien. Alors, on va goûter les sauces. Vas-y, peut-être que tu t'en rappelles. Tu peux dire ton petit prénom?
Je m'appelle Louis.
D'accord. Là, tu es plutôt en salle. Alors, qu'est-ce qu'ils ont préparé là?
Alors, on a préparé 8 sauces différentes.
D'accord.
Premier qui s'appelle Milice, qui est fait avec du citron, crème fraîche, et sel et poivre.
C'est un peu râpé. Un peu râpeux.
D'accord.
Et mais c'est pas trop relevé et
c'est sympa.
C'est bon. Oui.
Okay. Bon, on peut applaudir, c'est validé. Merci, on peut les applaudir parce que là, sinon... Ah, j'ai un autre témoin, peut-être que ça va pas être validé. C'est en bouche, là.
C'est très fruité.
Ouais.
C'est doux. Mmh. C'est délicieux, moi j'aime bien.
Ok, c'est spécial. Est-ce que c'est un nouveau goût pour vous?
Ah, totalement, mais ça me dérange pas, c'est pas un goût qui me dérange, c'est un goût que je connais pas, mais c'est un goût que j'apprécie.
Ok, ben, merci. On peut applaudir pour le pesto, merci. Alors là, on va attaquer autre chose. Alors, donc, j'ai Louison avec un petit morceau de pain toujours et qui va goûter une autre sauce un peu particulière.
Bonjour, bon, en tout cas j'ai goûté le pain tout seul, il est délicieux.
Alors avec un peu de sauce alors. Qui présente la sauce pendant qu'il se régale? Qui présente la sauce?
Du coup, c'est une sauce donc au mélisse, ouais. Mélisse, citron confit, crème fraîche, oignon blanc et un peu de sel et un peu de poivre.
Ok, qu'est-ce que t'en penses Louison?
Ouais, ça ressort bien, hein. On sent bien le citron, bien la mélisse, c'est bien sûr du poisson.
Ah, c'est bien sur du poisson. T'en penses quoi, toi aussi?
Bah, complètement, puisque la mélisse avec le poisson et le citron confit, ça rajoute un goût. Par contre, faut pas en mettre beaucoup, parce que c'est vrai que ça, c'est fort, c'est très fort.
Avec une petite truite du Vercors, par exemple?
Ça peut être très bon, oui, complètement. C'est une sauce vierge à la mélisse aussi, citron, huile d'olive, oignon, de l'ail sauvage et des tomates cerises.
Tu veux goûter? Qui est-ce qui veut goûter la sauce chien, là? Peut-être la remuer un petit peu?
C'est une sauce vierge.
Une sauce vierge, d'accord.
Sauce vierge.
Ben, c'est vraiment pas mal. Hein.
Alors,
excellent. Okay, il y a plein de saveurs, donc on ne peut pas tout définir, mais...
C'est l'huile qui porte les saveurs.
Très bon, excellent. Okay. Ah, c'est très très bon.
Ok, bah, vas-y. Allez.
Alors, c'est bien, sauf que je me mets de l'huile partout, mais...
Ouais, c'est parce que j'ai un peu pressé la sauce.
D'accord. Bon, c'est plus fort que le pesto.
D'accord.
Ça reste assez longtemps en bouche. Là, c'est beaucoup plus discret par rapport au pesto. Je compare toujours. Moi, j'aime bien comparer. Le pesto est plus discret. Ça, c'est assez fort en bouche. Et c'est bon aussi. C'est délicieux. C'est frais. C'est très frais.
D'accord.
Voilà.
Alors, pour la consoude, du coup, pour la fabrication, du coup, on a ramassé de la consoude qu'on a ensuite lavé, puis après écrasé pour enlever tous les petits picots qu'il y a dessus.
Alors, est-ce que tu peux nous faire une description de la plante? Comment elle est?
Bon, ça fait une longue tige avec plein de grosses feuilles, moyennes grosses feuilles, avec des fleurs violettes.
D'accord.
Des petites fleurs violettes dessus.
Ok, donc vas-y, reprends un petit peu. Donc tu as dépioté.
Voilà, on les a coupées les feuilles. Après, on les a lavées. On les a écrasées pour enlever tous les petits picots.
D'accord.
Puis ensuite, on a fait un petit appareil à beignet, du coup, avec du lait, de la farine, 3 œufs.
Alors on voit qu'il y a du métier, parce que là, moi, il y a plein de mots que je connais pas. Un appareil,
c'est la pâte, du coup, pour les beignets. Et voilà, après, on les a fait cuire à la poêle, au feu de bois.
Avec de l'huile. Alors, c'est goûté. Vas-y, dis-moi.
Eh ben, ça, c'est un petit peu croquant.
Ouais.
C'est pas mal, parce que des fois, je trouve que c'est pas mal quand la pâte se détache un tout petit peu de la feuille.
Ouais.
Okay. J'aime bien le goût.
S'il y en a qui veulent revenir un peu aux fraîches, c'est que vous avez un été très chargé, on vous donne beaucoup de courage. Bah, nous aussi, on a un été très chargé. On vous souhaite aussi un bon parcours professionnel, ça fait vraiment plaisir.
Et n'oubliez pas une chose, s'il y a des convictions, eh bien, c'est qu'il y a des libertés. Ça sera le mot de la fin. Au revoir.